Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Vous avez 42 ans, vous êtes agrégé d'économie-gestion, professeur dans un lycée de la région parisienne, en section professionnelle, je crois.
Technologique.
Vous êtes également conseillère municipale à Vaux-en-Velin, près de Lyon, où vous résidiez avant, dans la région en tout cas. Vous avez succédé fin 2008 à Arlette Laguiller en tant que porte-parole de lutte ouvrière. Vous êtes crédité de 0,5 à 1% des voix dans les sondages. Première question, vous êtes la seule à vous réclamer exclusivement du communisme. Si vous êtes élue, le 6 mai, la France deviendrait-elle un pays marxiste-léniniste avec, par exemple, la fin de l'économie de marché et de l'entreprise privée?
Vous savez, si j'étais élue le 6 mai, cela signifierait pendant plusieurs semaines, je pense, des millions de gens dans la rue, de travailleurs dans la rue, en train de se révolter, de ne plus accepter justement tout ce qui se passe, voilà, de subir ce diktat patronal, ces licenciements à répétition. Ça voudrait dire tout cela. Ça voudrait dire donc effectivement une révolte sociale. Et si vous voulez, l'événement ne serait pas mon élection. L'événement, ça serait bel et bien cette révolte sociale. Vous savez, je sais que je n'ai que peu de chances d'être effectivement élue dans cette élection, mais en revanche, je n'ai aucune raison de me taire.
Non,
et donc de dire effectivement mes convictions et tout le mal que je pense, y compris effectivement de l'économie capitaliste dans laquelle nous vivons.
J'essayais, pour ceux qui nous écoutent, d'avoir une idée de ce que serait pour vous la société que vous voudriez mettre en place. Ce serait la fin de l'économie de marché et de l'entreprise privée ?
Oui, effectivement, moi je me réclame de cet idéal qui a été partagé par des générations de travailleurs, qui est un idéal d'une société sans exploitation, sans classe sociale, sans cette dictature du profit, de la concurrence, et une société où les grandes entreprises, les grandes banques, à commencer par les grandes banques, les grands groupes du CAC 40, ces 200 entreprises qui font la pluie et le beau temps, soient gérées collectivement de la façon la plus démocratique et qu'elles soient gérées pour répondre d'abord et avant tout aux besoins de la population et pas pour fonctionner, comme c'est le cas aujourd'hui, pour une minorité de très riches.
Vous dites le CAC 40, les banques, mais ce serait le cas pour toutes les entreprises.
Non, je crois qu'il faut prendre effectivement le contrôle des entreprises qui dominent l'économie et en fait qui gouvernent l'économie et dont on voit d'ailleurs qu'elles écrasent les petits. Non, je crois que bien des petits commerçants et des petits artisans ont des initiatives qui sont tout à fait positives et heureusement qu'ils sont là. Non, il s'agit de reprendre le contrôle de cette économie. Regardez tout de même la crise dans laquelle ils nous ont mis. Je considère, moi, que ceux qui dirigent effectivement ces grands groupes, ce sont des irresponsables. Les banquiers sont des irresponsables. Des irresponsables parce qu'ils ont transformé leur salle de banque en salle de casino, voilà. Et parce qu'ils jouent effectivement l'économie à la roulette russe. Et qu'il serait urgent et une nécessité sociale qu'on les empêche de nuire et qu'on reprenne le contrôle, justement, collectivement, les travailleurs, mais les usagers aussi de ces banques, qu'on reprenne le contrôle des banques de façon à ce qu'elles servent véritablement à répondre aux besoins.
François.
Oui, vous dites reprendre le contrôle de l'économie. Justement, dans votre programme, vous indiquez que vos objectifs ne peuvent être obtenus que par, je vous cite, une lutte collective des travailleurs suffisamment massive, suffisamment explosive pour menacer réellement la classe capitaliste. Ça veut dire quoi, menacer réellement? C'est un appel à la violence? Enfin,
ça veut surtout un groupe comme ArcelorMittal a décidé de fermer manifestement Florange. Peugeot Citroën a décidé de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Ce département de la Seine-Saint-Denis qui est déjà sinistré par le chômage, hein, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a aucun vote organisé sur ces décisions-là. On ne demande pas l'avis aux travailleurs, on ne demande pas l'avis à tous les sous-traitants qui gravitent autour, on ne demande pas l'avis à la population environnante, non. C'est des décisions qui s'imposent. Comment faire pour s'opposer à ces décisions qui sont injustes, qui ne sont
menacées,
qui
réellement
en aucun cas ne sont justifiées et qui vont effectivement semer la misère? Hein, comment peut-on les arrêter de semer effectivement la misère en plongeant dans le chômage de nouveaux travailleurs? Comment faire? Eh bien, moi, je ne connais que effectivement la force sociale, la force des travailleurs qui revendiquent leur droit à l'existence. Et je crois que le droit à l'existence, ça passe par le droit à un emploi. Et moi, je ne comprends pas et je trouve révoltant que des groupes qui sont riches à milliards, et c'est le cas d'ArcelorMittal, c'est le cas de Peugeot, c'est le cas d'Unilever, dont dépend Fralib, c'est le cas de Merck, c'est une industrie pharmaceutique qui ferme une usine dans l'Oise également, 280 salariés sur le carreau encore. Eh bien, ces groupes qui sont richissimes, ils ont la responsabilité de sauvegarder et de garantir les emplois dans cette période de crise, mais ça, vous voyez, il va falloir leur imposer. Leur imposer parce qu'ils n'en ont que pour leur
profit. Justement,
Nathalie Arthaud, pour poursuivre la question de mon camarade François Langlais, on a l'impression que souvent on n'y allait pas de main morte. Alors vous étiez interrogé l'autre jour sur les sanctions qu'il fallait infliger aux chefs d'entreprise qui ne respecteraient pas l'égalité homme-femme. Eh bien, voilà quelle fut votre réponse.
Quand les patrons violent les lois, quand ils font des délits, eh ben moi, je pense qu'il faut les sanctionner. Alors, toujours, on cherche les moyens de ne pas trop les sanctionner. Voilà. Eh ben moi, je pense, pourquoi pas la prison hein.
Alors, Nathalie Arthaud, vous avez un côté un peu définitif. On a l'impression que ça tranche un peu avec le côté non-violent de Philippe Poutou qu'on recevait hier soir.
Moi, je suis effectivement pour contraindre tous ces patrons voyous, oui, absolument, pour les contraindre. Et pourquoi pas la prison, évidemment, mais figurez-vous que moi, d'abord, ils violent la loi. Là, en l'occurrence, sur l'égalité professionnelle, vous rendez-vous compte qu'il y a 7 lois. 7 lois qui s'accumulent et puis elle est piétinée, elle est violée, etc. Alors, j'entends bien les protestations. J'ai déclenché un tollé et je vois bien dans vos réactions. Vous savez que certains de vos confrères m'ont conseillé d'aller faire un tour en prison. Certains de vos confrères m'ont même dit que c'était grotesque comme décision. Eh bien, le plus drôle dans cette histoire, c'est que la loi prévoit la prison, figurez-vous. L'article, elle... 1146.1, le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles précédents, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende.
Beaucoup de prison.
Alors, attendez, je tiens à continuer là-dessus, vous comprenez ? Parce que c'est révélateur, cette affaire-là. C'est révélateur parce que les réactions de tout le monde, ça a été de dire... Mais c'est pas possible, c'est grotesque, c'est inimaginable, etc.
Parce que dur et violent
pour les grands patrons. Le problème, c'est que quand ils sont riches, quand ils sont puissants, quand ils sont effectivement à la tête de grandes entreprises, ils sont intouchables. Et on est tous à leur, enfin, vous êtes tous à leurs pieds. Hein. Ils ont le droit de tout faire.
Ils ont le droit de tout faire, y compris
quand ils sont pris la main dans le sac. Regardez quand même Total avec l'Erika. C'est quand même bien eux qui sont responsables d'avoir pollué toutes les côtes bretonnes. Eh bien, regardez, même la justice va finalement les dédouaner, les exonérer de toutes les responsabilités. Donc voilà, c'est bien révélateur de cette société. Alors moi, ce que je dis justement aux travailleurs, puisque je m'adresse effectivement aux travailleurs, c'est que si la loi, si la justice, si le gouvernement n'est pas capable de faire ça, hein, de sanctionner et de faire appliquer ces lois, eh bien, il faut que ce soit les travailleurs qui le fassent. Et c'est pour ça que dans mon programme de lutte que vous avez effectivement souligné, eh bien, il y a le contrôle, la nécessité pour les travailleurs, d'imposer un contrôle sur ce qui se passe dans les entreprises, sur les décisions. Et là, je crois qu'on pourrait effectivement les empêcher de nuire.
Est-ce que le mot « dictature du prolétariat » vous semble bien convenir au projet de société, à l'organisation politique du pays que vous souhaitez voir se mettre en œuvre en France ?
Je pense que le mot de dictature convient parfaitement à ce que nous vivons aujourd'hui.
Non, je vous parle la question.
C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui une dictature du grand capital.
Non,
voilà. Et ce talon de fer, eh bien, il écrase. Les travailleurs, évidemment, hein, c'est quand même l'exploitation qui s'aggrave aujourd'hui.
Ça, c'est le diagnostic, c'est des conditions mais on parle de vos propositions.
Non, mais je peux m'expliquer.
Oui,
merci.
Mais on attend d'abord vos solutions.
Donc, on vit effectivement une dictature aujourd'hui des banquiers, dont on voit d'ailleurs qu'y compris les petites entreprises souffrent. Hein, beaucoup sont étranglés. Donc, une dictature, effectivement, des gros, des capitalistes sur la société. Et moi, ça, justement, je ne l'accepte pas. Au nom de quoi ces gens-là décident de toute l'économie et du sort de toute la société? Au nom de quoi? Au nom des capitaux qu'ils ont apportés? Bien, vous savez, ces capitaux-là, c'est en réalité l'argent qui a été sorti du travail de chacun, de génération et de génération. Alors moi, je dis oui, qu'il faut inverser les choses.
Donc,
et qu'au lieu que ce soit une minorité de capitalistes qui décident, qu'on décide collectivement dans ces grands groupes. Alors, Karl Marx avait appelé ça la dictature du prolétariat pour indiquer, oui, qu'il fallait que ce soit les travailleurs et l'ensemble de la population qui imposent collectivement leurs décisions. Pour moi, je dois vous dire, c'est la plus grande démocratie.
Alors, en matière fiscale, vous voulez supprimer la TVA complètement et la remplacer par un impôt à 100% sur les revenus du capital issus de l'exploitation d'autrui. Ça concerne toutes les entreprises. Je veux dire, une entreprise, c'est par nature un instrument d'exploitation, ou bien vous imaginez qu'il y ait des entreprises qui puissent échapper à cet opprobre et donc à la taxation à 100% que vous envisagez?
Je tiens juste à faire une petite précision. Je ne suis pas forcément pour supprimer l'ensemble de la TVA parce que j'ai absolument rien à ce qu'on maintienne une TVA sur les produits de luxe, les sacs Vuitton, sur les nuitées d'hôtels de luxe, sur les yachts, vous voyez. Là-dessus, Il n'y a pas de problème, je suis d'accord pour conserver une TVA, je suis même pour la doubler, la tripler, la multiplier par 10 si vous voulez, pas de problème. Moi, mon problème, c'est effectivement que ce sont les familles populaires qui remplissent aujourd'hui l'essentiel des caisses de l'État avec cet impôt qui est injuste. Parce que si on parle de justice fiscale, il faut parler de cet impôt-là. Hein, cet impôt où finalement, quand on va acheter sa baguette de pain, qu'on soit SMICAR, qu'on soit au RSA, on paye le même tarif d'impôt que pour le millionnaire, pour le milliardaire. Donc c'est un impôt injuste. Et moi, je suis effectivement pour le supprimer.
C'est un impôt proportionnel, effectivement.
Absolument, pour le supprimer.
L'exploitation d'autrui.
Et non seulement proportionnel, mais vous savez aussi, vous savez très bien, qu'en réalité, il pèse plus pour les familles modestes.
C'est tout à fait
car
juste.
Comme elles consomment l'essentiel de leurs revenus, en réalité, c'est
répondre à ma question,
injuste.
L'exploitation
donc,
d'autrui, c'est...
Il faut le compenser par d'autres rentrées. Donc oui, moi, je suis pour...
Toute entreprise exploite ses salariés ?
Le capital qui ressort effectivement de ces entreprises, c'est un capital qui est obtenu grâce à l'exploitation, grâce au fait d'avoir fait travailler pour soi-même d'autres salariés. Moi, je trouve ça tout à fait normal que ce capital-là, cet argent-là, soit taxé. C'est une façon de rendre à la société ce qui a été pris à un moment.
Fabien, il y a une proposition que j'ai vue qui mérite peut-être d'être expliquée. Il s'agit de celle de percevoir le salaire jusqu'à la mort. Ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire, c'est une forme de retraite ? C'est un salaire qui est payé par l'État ou par l'entreprise ?
Non. De la même façon qu'on cotise aujourd'hui pour sa retraite, il faudrait continuer, évidemment. Vous savez, de toute façon, on peut discuter des impôts, de tout, mais il y a quand même une idée qu'il faut bien quand même rappeler, c'est que toutes les richesses, elles sont quand même créées par le travail de chacun. Que tout ce qui, à un moment donné, circule dans la société, c'est le fruit quand même de notre travail collectif. Voilà, donc je tiens à le rappeler. Donc moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on est à la retraite, on a une chute de son revenu.
C'est-à-dire conserver le même revenu.
C'est conserver le même revenu, parce que la retraite, pour moi, c'est une nouvelle vie qui démarre, mais on a les loyers à payer, on a les mêmes charges à payer, et il n'y a pas de raison qu'on s'appauvrisse.
Et comment on fait pour maintenir ce niveau de revenu-là,
quand
on connaît aujourd'hui la situation des caisses de retraite ?
Moi, je pense que ces caisses de retraite, elles pourraient être remplies par, effectivement, les profits. Si on en enlevait un petit peu à ceux qui, aujourd'hui, accaparent les milliards et les milliards, qui, d'ailleurs, vous aurez remarqué, se transforment en caprices de riches pour la plupart du temps, ou alors, pire encore, vont alimenter la spéculation par, effectivement, dizaines, voire centaines de milliards quotidiennement. Je pense que oui, il y aurait de quoi payer les retraites. Voilà. Vous savez, les retraités, d'abord, je tiens aussi à souligner qu'ils sont utiles à la société. Vous savez, ils mettent bien de l'huile dans la société. C'est eux qui animent les associations, qui gardent les enfants de leurs petits-enfants, qui, souvent, par leur bénévolat, sont extrêmement utiles. Donc voilà, oui, je ne vois pas pourquoi, à la retraite, on devrait...
Aujourd'hui,
je tiens à préciser que les pensions de retraite, elles sont évidemment trop basses. Et surtout, le gros problème de ces pensions de retraite, c'est qu'elles ne suivent pas l'évolution des prix. Voilà. Et qu'aujourd'hui, elles sont rongées par l'inflation, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile. Et quand on voit des retraités qui ont trimé toute leur vie dans la misère, franchement, c'est révoltant.
Nathalie Arthaud, une question simple. Vous êtes professeur d'économie et de gestion, David l'a rappelé. Qu'est-ce que vous leur apprenez ça à vos élèves, ce que vous venez de dire depuis le début de la séance, si j'ose dire. Et alors, les notes, votre grille de notation, elle est calée sur votre programme ?
Je dois vous dire que c'est peut-être une différence avec vous. Moi, je n'aime pas trop les notes. Voilà.
Ah non, mais c'est vrai. Ça, c'est possible.
Je suis bien obligée d'en passer par là, mais je dois vous avouer que je ne crois pas que ce soit ça qui permette effectivement les apprentissages. Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt l'envie, c'est ouvrir les portes, c'est entraîner, c'est plutôt ça qui joue. Mais bon, je vous rassure, madame.
Rassurez-moi.
Quand je suis au travail, je travaille.
Vous avez une double
personnalité. Et quand je défends mes idées politiques, je milite. C'est-à-dire, je fais exactement comme vous. Je reste neutre, objective. Enfin bon, vous voyez, ne vous inquiétez pas, j'ai un esprit professionnel. Oui,
mais vous
absolument.
Leur parlez du CAC 40 dans le programme d'économie.
Vous décrivez les patrons, comment
le CAC 40, les banques.
Les entreprises, comme une structure
la politique de Nicolas Sarkozy.
D'exploitation. Enfin.
Écoutez, Nicolas Sarkozy, vous savez, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Il n'est pas encore au programme, vous voyez. Vous savez, en même temps, ces jeunes, ils ont des idées. Ils ont 18, 19 ans. La crise, ils la prennent en pleine figure. Le chômage, ils savent ce que c'est. Ils voient les inégalités, ils voient les injustices. C'est pas tellement ce que moi, je peux leur dire.
C'est surtout, vous n'êtes pas prof d'anglais, donc ça...
C'est surtout ceux qui vivent.
Alors, moi, j'ai juste une question. Est-ce que le système que vous imaginez, que vous êtes en train de nous décrire, peut prendre place dans un seul pays? Vous vous souvenez de cette vieille formule, le socialisme dans un seul pays? Est-ce que le communisme de Nathalie Arthaud peut exister dans un seul pays?
Non, justement, je ne crois pas. Je crois que...
Ah, donc c'est forcément une révolution internationale.
Je crois, oui. Et en attendant, je pense que dans les objectifs de lutte que je défends dans cette élection, il y a des choses qui peuvent tout à fait être imposées d'ores et déjà ici, à l'échelle du pays. Je pense à l'interdiction des licenciements dont on n'a pas parlé, mais que je considère comme une mesure d'urgence. Voilà, une mesure d'urgence, cette interdiction des licenciements.
Tous les licenciements.
Je pense que...
Même pour l'entreprise qui perd de l'argent,
alors, qui est au bord du dépôt de bilan. Interdiction de tous les licenciements. Nicolas Sarkozy a fait son superbe bilan. Ah, vraiment, il a été génial. Il a juste oublié quand même de dire que sous son mandat, il y a 1 million de chômeurs supplémentaires. Que depuis 10 mois, 800 à 1000 chômeurs de plus franchissent la porte de Pôle emploi. Il a oublié de dire cela. Il a oublié de dire que sur 3 ans, 900 usines avaient fermé, une par jour. C'est une hémorragie. Il faut mettre un garrot. Donc l'interdiction des licenciements, oui, une loi générale. De la même façon qu'en hiver, on est capable d'imposer la trêve des expulsions locatives. Dans une période de crise, on doit interdire les licenciements. Bien. Alors vous me dites, les entreprises qui sont en difficulté, hein, c'est ça qu'il faut... Je vous ferai quand même remarquer que beaucoup d'entreprises licencient sans être en difficulté. Elles licencient justement pour que ce ne soit... pas eux qui aient à amortir les pertes qu'ils subissent, hein, les ratés de leur économie, et pour le faire payer aux travailleurs. Et moi, je trouve
Celles qui sont en difficulté.
Alors, celles qui sont en difficulté, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de petites entreprises et de PME en difficulté. Mais pourquoi sont-elles en difficulté? C'est pas du fait de ma mesure, elle n'est pas encore en cours.
Non, mais est-ce que vous leur interdisez aussi les licenciements?
C'est pas du fait des révolutionnaires qu'elles sont en difficulté. Non, c'est du fait, effectivement, de ces donneurs d'ordre qui écrasent leurs prix, qui écrasent leurs marges, et c'est du fait des banques qui ne veulent plus leur prêter et qui les asphyxient littéralement. Donc, ces problèmes-là, il faut les régler. Mais moi, je crois qu'effectivement, il faut imposer là une mesure d'urgence.
D'accord.
Parce que être condamné au chômage, c'est être condamné à la misère aujourd'hui.
Il reste 3 minutes, on va essayer de parler d'autres sujets, Nathalie.
Nathalie Arthaud. Concernant la sécurité, il n'y a rien dans votre programme, sauf réduire le chômage pour réduire la criminalité. Est-ce que ça veut dire dans une société de plein emploi, ou dans votre société de rêve, eh bien, il n'y a plus de viol, plus d'agression et plus de crime?
Mais vous voyez, vous dites société de rêve. Moi, je...
Non, c'est rêver, celle, la vôtre.
Non, mais alors, ça veut dire que... C'est une société rêvée, une société où chaque personne ait un accès à un emploi.
Dans votre société idéale ou dans celle que vous préconisez, la commune de Paris en 71.
Pour nous, c'est évident qu'il y a du chômage. Je ne crois pas ça.
Vous ne parlez pas de sécurité, ça veut dire que c'est un non-sujet.
Et vous savez, la sécurité, c'est le terrain de prédilection de l'extrême droite et de Nicolas Sarkozy.
C'était le plus fort. Qui sont pas forcément...
Le plus fort en termes de sécurité. C'était celui qui était capable de tout faire. Et on en est où? On en est où?
Mais qui n'a pas en parlé du tout?
Est-ce que ça a fait reculer les problèmes de délinquance et d'incivilité? Non,
vous, Nathalie Arthaud, c'est vous qui êtes en face de nous.
Il y a un terreau, effectivement, à ces incivilités, à la montée de l'individualisme, du 5% pour soi, c'est le chômage. Et à partir du moment où, dans cette société, eh bien, il y aura cette aggravation, cette catastrophe sociale, et aussi ce culte de l'argent à un pôle de la société, oui, on ne se débarrassera pas de cela. Donc moi, je crois qu'il faut prendre le problème à la racine. Effectivement, et chacun doit dans cette société avoir un avenir, et l'avenir il passe par un emploi. Moi je pense que c'est pas les gens et leur vie qui doivent s'adapter à l'économie, c'est le contraire. C'est l'économie qui doit répondre aux besoins des gens, et il faut qu'il y ait des emplois pour tous et des salaires dignes pour
tous.
Nathalie Arthaud, dans un courrier que vous avez adressé au site de l'association Euro-Palestine, vous critiquez la politique d'Israël à l'encontre des Palestiniens, et vous assimilez Gaza à un camp de concentration à ciel ouvert. Très franchement, peut-on tout dire pour plaider une cause?
Tout dire quoi? Tout dire quoi?
Assimiler Gaza à un camp de concentration.
Qu'est-ce que vous avez en tête au juste?
Je vous pose la question très simplement. Est-ce que vous pensez que Israël pratique une extermination massive des Palestiniens?
Vous plaisantez, j'espère.
Je vous pose la question.
Vous plaisantez. Parce que pour vous, camp de concentration, camp de travail et camp d'extermination, c'est la même chose? Vous ne faites pas de différence.
Camp de concentration a une connotation absolument transparente. Ça renvoie à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Vous savez très bien, quand vous employez ces expressions, ce à quoi ça renvoie. Eh bien, je suis simplement la question de savoir.
Je suis désolée pour vous, mais vous manquez de culture et c'est vous qui faites les amalgames. Parce que les camps de concentration, ce n'est absolument pas une spécialité de l'Allemagne nazie. Les camps de concentration, ça a été les Anglais, c'est la guerre des Boers qui a commencé avec les camps de concentration et la France. La France en a connu des. C'est vous qui jouez sur les mots. La France, elle en a connu des camps de concentration où elle a effectivement enfermé les républicains espagnols, où l'État français a enfermé les militants antifascistes. À Gurs, à Rivesaltes, à Argelès, à Saint-Cyprien.
Donc,
camp de concentration, ou alors, si vous voulez, prison à ciel ouvert. Mais c'est synonyme, en réalité. Alors, ne cherchez pas à faire une polémique. Et par ailleurs, n'oublions pas la réalité, c'est qu'effectivement, bel et bien, ils sont enfermés, privés de leur capacité d'aller et de venir. Et c'est une catastrophe, ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie.
Il reste 40 secondes. On parle d'un mot du deuxième tour, Fabien, peut-être.
On se souvient qu'en 2002, Arlette Laguiller, qui était candidat de votre formation, avait refusé d'appeler à voter Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Déjà, je me pose simplement une petite question. Vous auriez fait la même chose qu'elle il y a 10 ans?
Ah ben bien sûr. D'accord. Voter à droite, voter pour Chirac, pour avoir Sarkozy après? Excusez-moi, mais non. Vous savez, la droite, elle avait d'ores et déjà gagné au premier tour. La réalité, c'était ça. Le Front National n'avait pas augmenté ses voix de 200 000. Donc tout ça, c'était une intoxication incroyable.
Voter à droite,
il n'en est absolument pas question.
Alors, voter à gauche.
Alors, ça nous est arrivé.
En 10 secondes.
Mais vous attendrez le soir du premier tour pour le savoir. Moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui, la question que je tiens à poser, c'est qu'est-ce qui sera déterminant dans l'avenir ? Celui qui va gagner l'élection, celui qui va être élu, ou ce qui se passe en bourse, cette crise qui continue et qui s'aggrave. Moi, je crois que c'est la crise. Et la politique patronale, elle va continuer. Et donc, les travailleurs vont devoir se préparer à se défendre par eux-mêmes.
C'est terminé. Moi, j'avais une ultime question, mais alors peut-être que je vous demanderai, comme je l'ai demandé à Jacques Cheminade, de répondre
sans parler. Non, un autre jour. Moi, je ne fais pas de... Voilà.
Attendez la question.
Non, mais...
Est-ce que vous avez pris goût à la politique ou est-ce que, comme Philippe Poutou qui nous disait « je serais content de retourner à l'usine », vous nous dites « je serais content de retourner dans mon lycée ».
Je continuerai de défendre mes idées.
Merci pour cette brièveté. Merci pour cette concision. Du coup, vous n'avez pas débordé. Merci Nathalie Arthaud d'avoir répondu à nos questions. Nous accueillons...